sous protection rapprochée l'été dernier, Procore menacé, nous allons en parler. Nous allons aussi faire parler les chiffres. Ils s'envolent depuis que Julien Moinil dirige le parquet de Bruxelles. Il y a par exemple 2 fois plus d'enquêtes et 2 fois plus de suspects arrêtés. Avec quels résultats concrets pour la sécurité? Et ce rythme est-il soutenable pour l'ensemble de la justice? On voit cela ensemble.
Bruxelloise a son nouveau gouvernement et la semaine dernière, la première visite du ministre-président Boris Dillier, c'était pour la gare du Midi. La sécurité comme priorité. Ça vous ravit ?
Oui, je suis ravi d'avoir un gouvernement puisque le gouvernement régional a des compétences qui permettent de compléter l'approche répressive. L'approche répressive n'est pas tout, il y a des compétences notamment en matière de prévention, en matière de santé, et donc je suis ravi qu'on puisse avoir un gouvernement de plein exercice pour avancer sur ces questions-là.
Mais au niveau répressif, au niveau purement judiciaire, vous assumez, vous personnellement, d'avoir donné un tour de vis et un sacré tour de vis?
Oui, je pense que c'était nécessaire. Il va falloir stabiliser maintenant le système pour que ça soit tenable sur le long terme. Je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. Ce qui est très important, c'est qu'on mette fin à certains sentiments d'impunité, de toute puissance de certains criminels qui pensent que tout est permis. C'est pas gagné. Je l'ai dit, il faudra de nombreuses années pour y arriver, mais c'est important de pouvoir apporter une réponse à chaque citoyen. Derrière chaque chiffre, vous avez un citoyen. Et on pourrait me dire, oui, mais la vente de drogue, finalement, il n'y a pas de victime directe, mais si, parce que les gens qui voient dealer en bas de chez eux méritent qu'on s'y attelle et qu'on apporte une réponse à ça. Et donc, c'est un vrai combat de tous les instants. Il y a un travail exceptionnel de la police qui est fait, un travail exceptionnel de mon administration, des employés, des magistrats, des criminologues, des juristes. Et je suis très content de pouvoir avoir ce bilan positif. Donc je suis un procureur qui est satisfait.
Le bilan chiffré, 4000 nouvelles enquêtes à l'instruction l'année dernière, 2000 mandats d'arrêt. Mais dans le même temps, le nombre de fusillades à Bruxelles ne baisse pas. 101 l'année dernière, des coups de feu ont de nouveau été tirés ce week-end. Comment comprendre cela ?
Alors, je vous l'ai dit, donc la criminalité organisée qui contrôle les points de deal ne se démantèle pas en quelques semaines et quelques mois. Donc il y a de nombreuses investigations qui sont en cours pour justement viser le démantèlement en profondeur. Ça prend du temps. Donc ce n'est pas parce qu'on a arrêté des tireurs que les organisations vont s'arrêter. Donc l'importance, et c'est vraiment le point fondamental de mon action, c'est de lutter contre les dirigeants des organisations criminelles et de pouvoir démanteler ces organisations. Mais ça prend du temps. Et avec une PJF qui est affaiblie, puisqu'elle n'a pas...
Police judiciaire fédérale.
Oui, police judiciaire fédérale, qui n'a pas tous ses effectifs. Donc on sait ouvrir un certain nombre d'enquêtes, mais limitées.
Vous appuyez sur l'accélérateur, vous en tant que patron du parquet de Bruxelles, mais on entend en effet du côté des enquêteurs, que ce soit au niveau fédéral, au niveau local d'ailleurs, au niveau des juges, que le rythme est élevé au point d'engorger le système. La chaîne justice ne risque-t-il pas de casser ?
Non, alors c'est une chaîne qui est solide. Alors il n'y a pas d'arriéré au tribunal de première instance, tant néerlandophone que francophone. Il y a un arriéré à la cour d'appel, mais qui existait déjà avant mon arrivée et sur lequel il faut absolument travailler. Mais je pense qu'il est important que la justice ne soit pas la cible et ne soit pas en réalité le vilain pouvoir qui ne fait pas son travail. La justice fait son travail, il appartient aux autres pouvoirs, le législatif, l'exécutif, de mettre en œuvre des législations et des moyens pour que la justice puisse fonctionner. Et la preuve en est, c'est que nous fonctionnons, mais que la police n'a pas ses cadres remplis, la justice, les greffes n'ont pas leurs cadres remplis non plus. Et donc, simplement, moi je demande, remplissez les cadres pour qu'on puisse avancer.
C'est un peu facile. Mais en attendant, le risque n'est-il pas d'ouvrir des dossiers qui restent finalement en bas d'une pile parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enquêteurs pour investiguer?
Alors, vous savez, le dossier, il est ouvert. De toute façon, quand le citoyen ou quand l'information arrive, le dossier, il est ouvert. Donc, on peut évidemment le refermer tout de suite et dire « on ne fait rien ». Je pense que c'est un mauvais message adressé aux citoyens. Désolé, on ne sait rien faire, mais on peut essayer. C'est ce que j'essaye de faire, c'est d'avancer avec tout le monde, mais en réclamant les moyens nécessaires. Mais les responsabilités, nous les prenons. Je pense qu'on ne peut pas dire aux citoyens « nous ne faisons rien, c'est pas audible ». Et je ne comprends pas pourquoi la sécurité ne fait pas l'objet de davantage d'investissements. Je ne comprends pas. Alors, il y a quand même... Pour la capitale de l'Europe, une police fédérale, je l'ai dit, où il manque des dizaines d'enquêteurs. Est-ce que c'est normal?
Le ministre de l'Intérieur vous en avait promis.
Alors,
des nouveaux
on a eu un renfort de 30 qui est toujours effectif, mais c'est un renfort d'autres PJF et donc on déforce les autres arrondissements. Ce qu'il faut, c'est un renforcement structurel. Alors je sais que tout ça prend du temps, mais il était important pour moi que la justice envoie un signal clair. L'impunité n'a pas sa place à Bruxelles.
À Marseille, la spirale de la violence a diminué par l'action des forces de l'ordre, mais aussi et peut-être surtout parce qu'un groupe criminel a réussi à prendre le dessus sur ses rivaux. Est-ce que c'est ce qui va se passer à Bruxelles ?
Je ne pense pas. Je pense qu'on va pouvoir, et je l'espère, vraiment freiner ce développement de façon suffisamment forte que pour éviter une situation telle qu'elle est à Marseille. Elle existe à Marseille où le crime de sang est devenu quelque chose de banal. Alors, on a des fusillades, ça tend à se banaliser, je ne l'accepte pas, mais heureusement, le nombre de morts à Bruxelles est encore bien inférieur à celui qu'on a à Marseille, et heureusement d'ailleurs.
Quand on évoque la drogue et la violence à Bruxelles, un surnom revient souvent, c'est celui de Marat, trafiquant condamné, inculpé pour assassinat. Il y a des contacts à Marseille et ailleurs à l'étranger. Est-ce en effet autour de son organisation que tournent aujourd'hui les alliances et les rivalités pour le deal à Bruxelles?
Alors, c'est
Marat.
Oui, c'est une organisation qui existe, effectivement, mais il y en a plusieurs. Alors, je l'ai déjà dit aussi, cette personne est incarcérée, comme d'autres d'ailleurs. Comment est-il possible que, depuis une cellule, on puisse encore mener des activités criminelles? J'espère que le ministère de la Justice va poursuivre ses efforts pour sécuriser les établissements pénitentiaires.
La semaine dernière, le parquet est descendu dans les locaux de la police fédérale. Vous enquêtez sur ce fiasco de l'e-police. Un projet, on le rappelle, de numérisation finalement qui a été abandonné. 75 millions dépensés pour rien. Vous soupçonnez quoi?
Alors, 78 millions dépensés pour rien, je soupçonne, à mon avis, beaucoup d'incompétence, et ça, c'est pas pénal, mais il faut vérifier si derrière ça, il n'y a pas eu de l'abus qui serait qualifiable pénalement. Et donc, peut-être...
L'abus de la part de qui?
Alors, ça peut être des deux côtés, ça peut être soit au niveau de la police, ça peut être soit au niveau du client ou de deux. Et donc, 78 millions, si on ne vérifie pas, pour moi, c'est une faute. Donc, il faut vérifier... Tout le monde est présumé innocent, mais 78 millions, j'aurais bien aimé avoir ça pour justement ma police fédérale et mon parquet.
Par le passé, la ministre de la Justice a été avocate pour la société chargée du projet. C'était avant sa prise de fonction comme ministre, c'était dans un dossier sans lien avec e-police. Mais très clairement, le saviez-vous et la soupçonnez-vous de conflit d'intérêts?
Alors d'abord, le parquet du procureur de roi n'est pas compétent en ce qui concerne les ministres, c'est le parquet général. Et donc s'il devait apparaître des éléments à charge de la ministre, eh bien je céderais ma compétence au parquet général. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Il est question d'éventuels conflits d'intérêts et ça, ce n'est pas de mon ressort. C'est une question déontologique et la déontologie des membres du gouvernement appartient au gouvernement.
En interne, des policiers ont émis des soupçons sur la conduite du projet il y a plusieurs années déjà. Pourquoi l'enquête maintenant, alors que ça fait longtemps que ce dossier s'en souffre?
Alors, j'ai ouvert l'enquête suite à la parution d'articles de presse. Personne n'est venu déposer plainte, donc on a une veille médiatique, c'est-à-dire que lorsqu'on examine certains articles de presse et qu'on considère qu'il pourrait y avoir des infractions, on se saisit d'office. Et donc c'est une saisine d'office suite à la parution d'articles de presse.
L'ONG Transparency vient de publier son classement de lutte contre la corruption. Une fois de plus, la Belgique fait mauvaise figure. Quelle est votre perception à vous, dont la mission est de lutter, entre autres, contre la corruption?
Oui, je suis d'accord, la corruption augmente. Elle augmente très fort en raison de la...
Comment vous le mesurez?
Alors, par les dossiers. Concrètement, je pense aux prisons, corruption dans les prisons, je pense à la corruption au sein des services de police. Il faut absolument lutter contre le crime organisé pour qu'il n'atteigne pas cette puissance qu'il a dans certains pays où il permet finalement de contrôler certains organismes étatiques, ce qui n'est pas encore le cas. Mais donc ça augmente, elle est de plus en plus puissante. Donc l'argent est là et on le voit au port. Donc il y a la question de la corruption au port d'Anvers, mais elle s'étend dans nos institutions et c'est fondamental de lutter.
En termes de volume, c'est combien de dossiers de corruption au parquet de Bruxelles?
Alors,
je rappelle que c'est le plus grand du pays.
Oui, on a augmenté nos dossiers qu'on appelle, les dossiers qu'on nomme affaires spéciales, donc avec des questions d'implication de personnes publiques de 14%.
Vous parliez de corruption, vous savez, nos auditeurs peuvent poser des questions et vous interpeller. Je vous propose d'écouter justement la question de Mika.
Bonjour. Comment faites-vous pour lutter contre la corruption, que ce soit au sein des services de police, de la justice ou des administrations, quand les cartels de drogue soit vous menacent, soit essayent de vous corrompre, D'ailleurs, un grand merci et un grand bravo pour votre courage. Bonne journée.
Alors, on le rappelle que vous êtes placé justement sous protection rapprochée depuis l'été dernier à cause des menaces sur votre vie. Donc, comment on peut lutter contre cette corruption ?
Mais je pense que les magistrats qui travaillent en Belgique sont des gens courageux et qu'on peut résister simplement parce qu'on a des valeurs et qu'on fait ça pour l'intérêt général. Et donc, alors je n'ai eu qu'une tentative de corruption, mais c'était lorsque j'étais magistrat à Mons. Je n'en ai pas encore eu ici. Et je pense...
C'est-à-dire ?
Ça, je ne vais pas donner de détails. C'était en 2017, mais
donc ça remonte
du milieu criminel, la criminalité organisée. Et donc, je pense que la magistrature est en capacité de résister, mais il faut veiller et être vigilant et pouvoir détecter certains signaux, notamment au sein des institutions publiques. C'est pour ça qu'on fait cette veille médiatique et que dès que on a des informations du quatrième pouvoir qui laisseraient penser que peut-être il y a de la corruption, bien on s'en saisit, on vérifie.
Sur la question de votre protection récente, sur les menaces récentes qui pesaient sur vous, vous ne vous êtes jamais vraiment exprimé. Comment avez-vous vécu cela d'un point de vue très personnel ?
Alors, je l'avais déjà vécu avant, c'est pas très agréable. Mais par contre, je l'ai dit aussi, j'ai choisi ce métier. Et donc, je pouvais peut-être m'imaginer au départ que ça allait arriver. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me surprend au point de me dire je vais arrêter de travailler. Bien au contraire, c'est quelque chose qui peut, à un certain moment, me dire ben, c'est que tu es peut-être sur la bonne voie, donc continue. Mais donc, oui, c'est très difficile sur le plan humain, surtout ces mesures de protection. Mais je dois dire que les services qui ont géré ça ont été très professionnels. Donc,
Des mois d'enquête, énormément de moyens dédiés à cela. Et pourtant, aujourd'hui, à notre connaissance, personne n'a été inculpé. Est-ce que vous en savez plus ? Alors, néanmoins, a-t-on voulu vous éliminer, vous intimider, noyer les services ?
Je n'ai pas demandé accès au dossier. Je préfère faire confiance à mes collègues du parquet fédéral et j'ai toute confiance dans leur travail.
Nous allons vers un narco-état. C'est l'impression d'une juge d'instruction anversoise qui, comme vous, a été placée sous protection. Est-ce que vous rejoignez cette analyse ?
Le narco-état est un état où la criminalité organisée contrôle les structures étatique, politique, et à tel point qu'il peut, je dirais, y faire la loi. Nous n'en sommes pas là, heureusement, mais il faut absolument continuer le combat.
Un dernier mot sur ce qui se passe pour l'instant au Mexique. El Mencho, puissant chef de cartel, vient d'être tué. Son organisation, Jalisco Nouvelle Génération, exportait aussi de la drogue vers la Belgique. C'est quelque chose, en effet, que vous avez constaté dans certains dossiers ?
La cocaïne, évidemment, provient des cartels sud-américains et qui nous fournissent. Et il y a des liens, souvent, dans les dossiers où on voit que l'un ou l'autre part en Colombie, part au Mexique pour y faire un voyage et certainement pas touristique. Donc, ce n'est pas étonnant. Maintenant qu'ils soient implantés directement, ça c'est un autre débat.
Certains craignent une importation de la violence d'Amérique du Sud vers l'Europe, comme on l'a vu récemment en France avec des tueurs à gages colombiens qui se trouvaient à Lyon. Est-ce qu'on observe ce genre de choses aussi en Belgique ?
Il y a des règlements de compte très violents, oui, mais on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais il faut éviter qu'on en arrive là.
Merci Julien Moinil d'avoir été notre invité en direct ce
Bonne
matin,
journée.
Je vous rappelle.